supporter la cour.
La liberté que nous voulons. L'émission de l'association pour une constituante.
Car ils pensent comme moi que rien ne vaut mieux ma foi qu'une qu'une république bien démocratique.
www.pourunequonstituante.fr.
Bonjour, Nathalie sur Radio Doc. Alors figurez-vous que j'ai eu beaucoup de mal à penser à cette chronique. Je ne savais vraiment pas par quoi commencer. Alors, forcément, il faut quand même revenir sur la décision du Conseil constitutionnel pour la réforme des retraites, promulguée donc le 4 avril, publiée au journal officiel le 15 avril, de façon expresse par Emmanuel Macron. L'approbation des sages, ce terme pour les nommer me semble tellement ridicule. Ce n'est qu'une réforme des retraites ratée, avec un président qui n'a pas tenu compte des choix, ni même des avis des parlementaires, et qui illustre de façon consternante ce qu'est devenu notre République, avec la suprématie de cet exécutif. Le Parlement est-il vidé de son sens ? Est-ce cela qu'on en appelle la verticalité du pouvoir présidentiel ? Les articles 20 et 21 de la Constitution donnent au gouvernement la mission de déterminer et conduire la politique de la nation. Pas au président, on l'oublie. Et nous avons pris l'habitude de considérer le chef de l'État comme la tête stratégique du pays, le roi. Alors, je n'ai pas lu l'article 20, est-ce que c'est intéressant que je...
Je précise aussi quelque chose, c'est que la nomination des ministres, qui est quand même quelque chose d'essentiel, c'est également le Premier ministre qui nomme les ministres, c'est pas le Président de la République.
De la République, exactement. Alors, l'article 11 pourrait, justement je reviens sur cet article 11 pour expliquer un petit peu ce que tu viens de dire, l'article 11 pourrait alors laisser quand même la parole au peuple. Mais, alors, je pourrais vous relire aussi l'article 11. Je pense que ça va être très long si je commence à vous lire un peu tous les articles, mais je vous invite à aller les lire, hein. Donc, cet article 11, qui pourrait laisser la parole au peuple, mais, c'est un moyen aussi de limiter l'exercice décisionnel du président. Alors, aurions-nous là l'occasion, grâce à cet article 11, oui, c'est peut-être intéressant que je le lise, l'occasion de sortir de 60 ans de régime politique qui ne nous convient plus. Il entraîne nombre de citoyens à ne plus voter parce que les représentants ne nous représentent plus. Sauf quoi ? Eh bien, leur programme et rien d'autre qu'un programme de parti politique. Alors, est-ce que je le lis, cet article 11 ?
Pas obligatoire. Moi, j'appellerais juste un passage de l'article 11 pour dire à quel point on fait confiance au peuple dans la Constitution. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs moyens d'obtenir un référendum dans l'article 11. Une, c'est le gouvernement qui peut demander au président d'organiser un référendum. Mmh. Mais si c'est le gouvernement qui demande d'organiser un référendum, quand même, comme le peuple est un peu stupide... On organise déjà un débat aux deux assemblées. Mmh. C'est-à-dire qu'avant même que le référendum soit fait, faut d'abord que les députés et les sénateurs discutent.
Et nous disent comment voter. Est-ce que c'est bon de laisser le peuple décider
c'est surtout
d'un texte de loi,
nous indiquer comment voter pour après nous engueuler quand on vote pas comme ils avaient prévu.
C'est ça.
Référence à un référendum qui pourrait exister, mais... Enfin, bien sûr, c'est le référendum sur la Constitution européenne.
Bon, là, quand même, quelle déception, hein. On est quand même...
Je pense que la crise démocratique dans laquelle nous sommes prend sa source dans la façon dont le peuple a été méprisé lorsqu'il a refusé la Constitution européenne en France et qu'on lui a imposé quand même.
Oui.
C'est-à-dire, comment croire à la démocratie quand... la voix du peuple est bafouée par le Parlement.
Oui, tout à fait. Je pense que d'ailleurs... beaucoup de choses se sont déstabilisées et puis
c'est l'aboutissement.
Là.
On est la crise où on est actuelle, c'est l'aboutissement de cela, puisque tout c'est un enchaînement, c'est le vrai cercle vicieux. C'est-à-dire que les gens ont bien compris que leur vote ne comptait plus, donc ils ont cessé d'aller voter à partir de ce moment-là. Et on voit nettement la chute de la participation qui arrive après cet épisode.
Alors qu'est-ce qu'on doit faire, nous citoyens ? On leur laisse une grande place finalement. On leur laisse faire n'importe quoi parce qu'ils ont le pouvoir et nous plus du tout. Vive le roi. Ben je me dirais aujourd'hui, ressaisissons-nous. Après tout, on a encore notre mot à dire et on est en train de le dire. On est en train de faire bouger les choses. Mais bon, la Macronie révèle depuis quelque temps une face vraiment antidémocratique en jouant avec les articles de notre Constitution. Hein, moi, je viens de vous en citer donc l'article 20, 21, l'article 11, mais vous avez l'article 49, 50. Vous avez plusieurs articles qui font qu'aujourd'hui, on se rend compte que finalement, elle est bafouée tous les jours, cette Constitution. Et on peut lire entre les lignes, essayer de comprendre entre les lignes ce qu'ils sont en train, eux, de jouer. Finalement, je crois, eux-mêmes ne savent pas quels sont tout à fait leurs droits ou pas leurs droits. Enfin, bon, là, c'est mon avis un peu plus personnel, mais ça m'a vraiment mis en colère.
Oui, puis la phase répressive, exposée par le pouvoir actuel est telle que même la défenseur des droits se croit obligée de rappeler les autorités à l'ordre. Quoi.
Oui, et c'est pas bien vu non plus, hein, parce que finalement, on va leur trouver d'autres problèmes avec eux aussi, je crois. Hein. Donc, ils sont en train de jouer donc avec ces articles de notre Constitution, et puis comme nous, on ne va pas forcément aller la lire et forcément comprendre certains passages de ces articles. Donc, ne nous laissons pas faire, surtout allons relire un peu notre Constitution. Et c'est vrai que beaucoup parlent aujourd'hui qu'il faut la changer, notre Constitution, et passer à une autre Constitution. Moi, je dis oui qu'il y a des choses à changer dans cette Constitution. Bon, ça c'est mon avis, je vais rester assez neutre là-dessus pour l'instant.
Non, mais même sans donner d'avis personnel, il est évident qu'une Constitution est adaptée à une époque. Et à...
C'est ça.
Et donc cette constitution a été conçue sur un bipolarisme droite-gauche. Et or, nous sommes dans une autre situation maintenant.
Tout à fait.
Et donc l'outil d'administration n'est plus adapté à la situation actuelle. C'est
tout à fait.
Sans jugement de valeur. Hein. C'est, il y a un problème d'adaptation à la situation.
Et puis aujourd'hui, c'est la constitution de 58, le général de Gaulle. Il y avait changé quand même des choses, justement par rapport à la place du pouvoir du président. Et c'est peut-être là qu'il faut aussi réviser, parce que mon général de Gaulle... C'est pas qu'il l'avait fait pour prendre cette place de cette façon-là. Il y avait une sortie de guerre d'Algérie, il y avait eu une forme de coup d'État. Il y avait quand même, même à la sortie de la guerre, il a voulu...
Un carteron de généraux félons.
Eh ben, voilà. Bon, on pourrait revenir là-dessus. Mais c'est vrai que je pense que notre constitution aujourd'hui, elle aurait besoin d'être réactualisée par rapport au monde dans lequel on est. Donc, c'est vraiment ça qu'il faudrait repenser vraiment beaucoup d'articles. Et retirer ce côté un petit peu tout pouvoir à l'exécutif. Et ce côté un peu comme le disait Mélenchon,
oui non,
d'une
oui.
République royaliste.
Bah
c'est
oui,
vrai qu'il y a
oui,
quand
oui.
même un côté encore vraiment d'un pouvoir à 100% pour un président, pour un représentant du peuple. Mais le peuple, faut quand même savoir l'écouter ou répondre en tous les cas à ses demandes. À ses demandes qui sont justifiées. Hein, qui sont justifiées. Là, moi, je trouve que aujourd'hui, on est quand même très malmené. Le peuple est très malmené. Parce que, bon, il y a tous ces articles de notre Constitution qui ne sont pas respectés, mais il y a aussi les violences policières aujourd'hui.
Oui, oui.
Et là, il est temps d'en s'en apercevoir. Ce gouvernement continue de mener une politique antisociale et d'un autre âge. Ça sent mauvais pour la démocratie française. Et cela devrait aussi nous interroger sur l'avenir des luttes sociales. Bon, même si... Nous sommes tous ravis de voir quand même, enfin moi particulièrement, donc c'est vrai que je laisse peut-être un petit peu mon propre avis sortir, mais j'étais quand même assez contente de voir les syndicats se réunir et se aller vers cette même cause, vers la même cause. Ça, c'était quand même très fort. Bon, comment un tel niveau d'inégalité est-il possible dans un pays réputé pour être aussi redistributif que la France? Grâce à notre système de santé et de protection sociale, qui porte avec lui la promesse républicaine d'égalité des chances. Mais qu'est-ce qu'on est en train d'en faire de cette République? Et pourtant, ce modèle-là est en train de disparaître. N'est-ce pas là le résultat d'une politique d'économie, de bout de chandelle sur des services publics essentiels? Une politique qui ose se justifier par le manque de moyens. Emmanuel Macron explique alors qu'il n'y a pas d'argent magique. Je ne sais pas si tu te souviens de...
Je m'en souviens très bien. Et justement, c'est la question que je me suis posée dès l'arrivée de la crise du Covid. Parce que d'un seul coup...
Il y en a eu.
Il y en a eu de l'argent magique. C'est incroyable. C'est-à-dire que c'est un double magicien. Il sait faire apparaître l'argent et il sait dire qu'il n'y a pas d'argent magique.
Et alors, tout en multipliant, cependant, les baisses d'impôts visant les plus aisés et jackpot pour les grandes entreprises. Alors, j'aurais bien aimé revenir sur cette fameuse réforme des retraites, mais en fait, j'ai voulu faire cette chronique avec un peu des problèmes de globalité des problèmes, voilà. Leur baisse d'impôts se cumule avec des aides d'État pour ces grosses entreprises. Je parle des grosses entreprises, de plus en plus importantes, ces aides pour l'État. Les gouvernements successifs ont multiplié les dispositifs pour venir en aide à qui ? Aux entreprises, aux grosses entreprises, en refusant systématiquement d'y adosser des contreparties en termes d'emploi, de transition écologique, de lutte contre la délocalisation ou contre les paradis fiscaux. Tu voulais rajouter quelque chose ?
Non.
En 40 ans, ces aides aux entreprises ont été multipliées par 15. Et ces dizaines de milliards d'euros manquent aujourd'hui pour financer nos services publics essentiels et servent également aujourd'hui à justifier la réduction des financements de notre assurance chômage et de nos retraites. Si le bouclier tarifaire aura limité les prix du gaz et de l'électricité avec les différentes remises à la pompe et autres chèques 100 euros, à qui profite le crime ? Ce coût supporté par la finance publique est celui aussi de l'inaction climatique qui rend la France dépendante aux ressources fossiles. Même si une réponse d'urgence est nécessaire, bien sûr, et qui aura été mise en place pour protéger les plus précaires, il n'empêche que, et je continue à dire, à qui profite le crime ? La seule solution pérenne est de réduire notre dépendance aux énergies fossiles. Et cela devrait passer par un investissement énorme, énorme, dans la rénovation thermique pour baisser la note et la pollution liée au chauffage. Passer par le développement des modes de transport bas carbone et l'incitation au transport en commun pour s'éloigner toujours de notre dépendance à la voiture et au gazole. Transition écologique, sobriété, des mots que l'on réserve au discours. On le voit, avec ce problème de l'eau, des méga-bassines, le tout nucléaire, mais c'est pas possible, on marche sur la tête. On n'évolue pas dans le bon sens du terme. Eh oh les cocos, on est là dans des solutions, dans des besoins de solutions immédiates. Alors, pour faire face à ce changement climatique, les rapports du GIEC, les scientifiques, là, tout ça, ça ne vous suffit pas. Et puis, on s'en fout. Pourquoi ? Pour l'économie, pour les profits. L'économie et le profit qui ne nous laissent, qui vous laissent si peu raisonnables et responsables.
Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien.
Emmanuel, rentre chez toi, t'es trop plein d'arrogance. C'est pour un chef d'État, tu frôles l'indécence. Si tes petits copains déboursaient leurs impôts, au lieu de se planquer dans leurs paradis fiscaux, ça ferait des retraites pour les retraités. Je sais, tu trouves ça bête, mais bon, ça peut aider. Au menu des missions, là y'a saturation. Rien n'est bon dans le Macron, sauf pour les grands patrons. Monsieur le Président, s'il te plaît, va mourir. Monsieur le méprisant, tu mens comme tu respires. Les violences policières, non, ça n'existe pas. Puis d'ailleurs, Castaner, c'est la mère Teresa. Du coup, tu continues de te prendre pour un dieu quand tu nous pisses dessus. BFM dit qu'il pleut, allez, casse-toi, Manu. Cette fois, la coupe est pleine, on t'a tout ça, c'est vu. C'est la fin de ton règne. Arrête un peu Manu, tes grands airs à la con. Va traverser la rue, c'est la seule solution. Avec un peu de chance, ils embauchent au McDo. Ça change de la finance et d'ailleurs pour info, tu verras que c'est marrant de ne même pas gagner le prix du carburant pour aller travailler. Allez Manu, ciao, tu manqueras à personne, sauf bien sûr Monsanto, Google et Amazon. Manu, dans la vraie vie, y'a pas que des milliardaires. Du dimanche au samedi, y'a tous ceux qui galèrent, ceux qui n'ont pas de quoi faire bouillir la marmite, ceux pour qui les fins de mois commencent à peine le 8, tous ceux qui ont la dalle et qui osent se plaindre alors que les aides sociales coûtent un pognon de dingue. Allez Manu, va-t'en maintenant, c'est urgent, dégage, fous le camp, il faut te dire comment. Allez Manu, casse-toi, casse-toi, oust, casse-toi.
Merci Agnès Bill, je crois qu'on commence à se comprendre toutes les deux. Allez, on débourse plus de 50 milliards d'euros pour limiter la hausse des prix. Et on ne parle que des paniers des ménagères qui vont dans les grandes surfaces, bien sûr, la grande distribution, que l'on continue d'engraisser au nom des paniers allégés. À qui profite le crime ? Plutôt que de faire contribuer ceux qui profitent de la crise, le gouvernement table sur une baisse des dépenses dans les services publics et la protection sociale. Oui, cher président Macron, cher gouvernement et chers députés, il y a beaucoup de pauvres dans notre beau pays, la France. Est-ce pour cela que depuis le 1er février 2023, vous avez réduit les dépenses de 4 milliards d'euros par an en modulant les allocations chômage perçues par les allocataires en fonction de la conjoncture économique? Une réforme dénoncée unanimement par l'ensemble des syndicats. Les chômeurs perdent ainsi un quart de leurs prestations, pour lesquelles je voudrais préciser qu'ils ont cotisé. Rappelons-le, ben oui, mais il n'empêche que c'est efficace. Le nombre de chômeurs indemnisés, figurez-vous, a baissé de 12%. Mais c'est vrai, il y en a marre de tous ces tirs au flanc qui nous coûtent cher. Voilà, c'est ça le résultat des grands médias. Pas suffisant cependant pour équilibrer les recettes. Pas de chance Macron. Ainsi, la nouvelle réforme des retraites vous fera quand même travailler plus longtemps, chers citoyens, chères citoyennes, pour combler un déficit estimé à 12 milliards d'euros par an. À peine 2% de la fortune des milliardaires français. Et oui, faut continuer à travailler plus, non pas pour gagner plus cette fois-ci, mais pour faire gagner plus à qui ? Aux grosses poches, aux gros profits. Nous ne sommes pas aussi abrutis que le dit Madame Borne. Eh oui, on l'a quand même entendu. On sait réfléchir et compter, alors qu'en 1789, Madame Borne, le peuple n'avait pas d'instruction. Mais que du bon sens! Alors maintenant, on a quoi? L'instruction et encore du bon sens. Sous la Ve République, le président, s'il ne peut pas tout faire, eh ben, généralement, il n'est pas en mesure d'imposer ses volontés. Pourtant, si l'on s'en tient toujours au texte de notre Constitution, le président, donc président Macron, il ne possède presque aucun pouvoir gouvernemental. Il y est représenté comme un arbitre, capable seulement de solliciter d'autres autorités. On est d'accord, hein, Poupa ? Le Parlement, le Conseil constitutionnel, et puis qui ? Le peuple ! Alors, où en sommes-nous ? Si la promulgation précipitée de la loi sur les retraites était prévue, la fébrilité dont fait preuve Emmanuel Macron en dit long sur sa conception de l'autorité et sur la disparition progressive de tout contre-pouvoir réel en France. Nous sommes loin de la démocratie présentée comme un rempart contre l'illibéralisme. Mais qu'est-ce qu'une démocratie illibérale ? C'est un régime élu démocratiquement. Qui, prétendant détenir le monopole de la volonté générale du peuple, ignore de ce fait les limites constitutionnelles à son pouvoir et va jusqu'à déposséder les citoyens de leurs droits et libertés. On parle alors de démocrature, un subtil mélange de démocratie et de dictature. Alors oui, nous sommes loin de la démocratie, présentée comme un rempart contre l'illibéralisme. Discours qui a servi par deux fois à faire élire M. Macron à la magistrature suprême. Le régime évolue désormais vers un pouvoir sans frein. Le temps des illusions est passé. Mobilisons-nous pour le retour aux principes démocratiques. Alors, sur ce dernier texte qui n'est pas de moi, qui est donc d'André Bellon, qui représente notre association. Et je voulais vous rappeler deux livres, deux titres qui sont très intéressants. La démocratie confisquée, sorti en 2021, et coécrit avec Anne-Cécile Robert. Puis un autre titre, un totalitarisme, tranquille. Alors je voulais vous rappeler aussi que ma chronique, en fait, je me sers de beaucoup de choses que je suis en train de lire dans la semaine. Et entre autres, je me suis resservi du rapport d'Oxfam France, celui qui est de 6 janvier 2023 et qui est toujours consultable sur Internet, et des articles d'un constitutionnaliste, Dominique Rousseau. Voilà. Mais avant de vous quitter, je voulais vous rappeler... Ah, tu voulais dire quelque chose ? Non. Alors, avant de vous quitter, je voulais vous rappeler quand même que samedi 22 avril, sera la journée mondiale de la Terre. Alors, bien sûr, à Moissac, parce que nous sommes à Moissac, et dans le cadre de cette journée, plusieurs associations locales organisent donc une rencontre donc avec plusieurs personnes donc de ces associations comme France Nature Environnement, vous avez aussi Nature et Progrès, les Assemblées Citoyennes, le Nouvel Amphi, mais je pense que j'en oublie encore. Et là, il y a la projection d'un film à 20h30 au Cinéma Concorde, donc à Moissac, qui s'appelle Secrets Toxiques et qui abordera le problème des pesticides. Pour suivre donc le samedi 22 avril, qui est vraiment la journée la journée mondiale de la Terre, il y aura une table ronde au Nouvel Amphi avec Nature et Progrès et le docteur Donadio. Qui nous parlera une fois de plus des pesticides et des risques pour la santé. Puis les assemblées citoyennes donc de Moissac pour l'instant prolongeront ce long week-end pour la planète avec un grand ramassage déchets le long du Tarn et jusqu'à la confluence. Voilà, on s'est même renseigné auprès d'un naturaliste pour ne pas gêner les oiseaux s'il y avait des nidifications et il n'y en a pas dans le secteur où on doit aller. Alors le rendez-vous est fixé à 14h à l'Uvarium, donc dimanche prochain, le 23 avril. Voilà, je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.
J'assaisonne moi-même mes plats aux pesticides. Les pesticides, c'est tellement meilleur. J'assaisonne moi-même mes plats aux pesticides. Les pesticides, c'est le bonheur. Fini le curry, fini la coriandre. Bien sûr, ceci peut vous surprendre, mais je préfère quand c'est agrochimique. Et je rajoute tout un tas de produits magiques: néonicotinoïdes, l'imidaclopride, le glucanidine, le sulfoxaflore, l'organophosphate, le benzimidiazole, le dithiocarbamate. J'adore. Venez goûter mes petits plats aux pesticides. Les pesticides, c'est tellement meilleur. Venez goûter mes petits plats aux pesticides. Les pesticides, c'est le bonheur. Y'a pas à dire, c'est excellent. Pitié, plus de flan caramel, sans anticoagulant. On est les champions de la pâtisserie en France. Et on compense l'excès de levure par régulateur de croissance.
Néonicotinoïdes, l'imidaclopride, le glucanidine, le sulfoxaflore, l'organophosphate, le benzimidiazole, le dithiocarbamate. J'adore! J'adore!
Thank you. résine et des hormones dans les paupiettes. L'huile minérale, hydrocarbone, ultra chlorée. Et du bleu de bouillie bordelaise pour décorer. Néonicotinoïdes, l'imidaclopride, le clothianidine, le sulfoxaflore, l'organophosphate, le benzimidiazole, le dithiocarbamate. J'adore! Oh oui, j'adore! We want more! We want more!